Bonsoir et bon début de semaine à tous. Toutes nos excuses pour les retards avec lesquels nous commençons cette émission. Clôture samedi 23 mars à Lusaka, en Zambie, du sommet extraordinaire de la SADC consacré à l'évaluation des missions de la SADC déployées en RDC et au Mozambique. Selon le communiqué publié à l'issue de ces assises, les chefs d'État de la SADC ont dénoncé et désapprouvé les démarches du Rwanda contre la mission de la SADC en RDC. Cependant, bien avant le sommet de la SADC, les délégations conduite par Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, et Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, se sont retrouvés jeudi 21 mars 2024 à Luanda, en Angola, autour du facilitateur de l'Angola, représenté par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, Tété Antonio. Conformément à sa mission, des médiateurs désignés par l'Union africaine ont vu d'organiser une rencontre directe entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Les délégations ministérielles des deux pays se sont penchées sur la situation sécuritaire dans l'est du pays avant la rencontre proprement dite des deux chefs d'État. Selon un communiqué cité par l'agence angolaise de presse, les ministres ont convenu à cette occasion de tenir une deuxième réunion au niveau ministériel dans quelques jours, toujours dans la capitale angolaise. Que pensez-vous de toutes ces rencontres sur la situation sécuritaire en RDC? Un tête-à-tête Félix Tshisekedi, Paul Kagame pourrait-il permettre le retour de la paix dans l'est de la RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 25 mars 2024. Participe au débat Jean-Baptiste Omindo Kasekwa avec moi dans ce studio. Il est député national honoraire et notable de Goma au Nord Kivu. Il est secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamoukia. Jean-Baptiste Omindo Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir.
Rigen Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Rigen Miviri, bonsoir. Rigen Miviri, bonsoir. Je pense qu'il n'est pas encore en ligne. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. On me signale qu'il est en ligne. Rigen Miviri, est-ce que vous m'entendez?
Je vous écoute très bien, merci.
Merci, bonsoir. Voilà, il est là, il est en ligne, il est avec nous dans ce débat. Et aussi, dans cette émission, Toumba Tshabola Bintou, député national honoraire et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Toumba Tshabola Bintou, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir madame, bonsoir à tous les co-débatteurs ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio publique.
Merci beaucoup. Vous êtes déjà très nombreux auditeurs de Radio Okapi à réagir au thème de ce soir. Rukielo Uroti, bienvenue depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Je salue les différentes démarches qu'engage le gouvernement congolais en quête de la paix à l'est de la République. Cependant, je regrette l'inefficacité des actions de ces organisations sur le terrain, car la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. Isaac Bamporiki, depuis Bukavu, Sud Kivu, pour notre paix, la solution diplomatique ne suffit pas à elle seule. Il faut aussi et beaucoup plus la solution militaire la plus durable. C'est depuis trois décennies que les guerres du Rwanda et les groupes armés qu'ils soutiennent déstabilisent l'est de la RDC parce que nous ne faisons que négocier en position de faiblesse et même infiltrer notre armée à l'issue de ces négociations. Nous devons absolument nous organiser et avoir des alliances militaires efficaces. À Goma au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, Les chefs d'État de la SADC dénoncent et désapprouvent les démarches du Rwanda contre la mission de la SADC en RDC auprès du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. C'est ce que dit le communiqué rendu public à l'issue du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe qui s'est clôturé ce week-end dans la soirée au Centre international des conférences Mulengeshi en Zambie. Jacques-Yves Molima nous en dit plus.
Après avoir été informé sur les missions de la SADC en République démocratique du Congo et au Mozambique, les chefs d'État des pays membres de la SADC ont indiqué que le déploiement de la SAMI-RDC est conforme au pacte ayant créé la SADC et à celui de défense mutuelle des pays membres. Ainsi, le sommet s'est réjoui de la non-prise en compte de la demande du Rwanda par le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. En effet, signalons que le Rwanda avait entrepris des démarches auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la Commission de l'Union africaine pour que ces instances n'endossent pas la mission militaire de la SADC en RDC. De ce fait, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a d'ailleurs demandé de mettre le matériel de la force africaine d'attente entreposé au Cameroun à la disposition de la SAMI-RDC. N'a-t-on compris part à ce sommet, outre le chef d'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État angolais João Lourenço, Dr Lazarus Chakwera du Malawi, Philippe Nyusi de Mozambique, Emerson Nangagwa du Zimbabwe, ainsi que les vice-présidents de la Namibie et de la Tanzanie, le premier ministre du Lesotho, le ministre de la Défense du Botswana et le ministre à la présidence d'Afrique du Sud, assistés des experts de leur pays.
Merci Jacques-Yves Molima pour ce résumé. Jean-Baptiste Omindo Kasekwa, je rappelle que vous êtes député national honoraire, notable du Nord Kivu, mais aussi secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamuka. Plusieurs rencontres au niveau de la sous-région pour essayer de trouver une solution à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Que pensez-vous d'abord de l'organisation de toutes ces rencontres sur la question sécuritaire en RDC?
Alors, ces rencontres n'apportent aucune réponse au drame sécuritaire et humanitaire que vivent les Congolais. Lorsque, dès ces sommets de Lusaka, aucune sanction n'est prise pour contraindre le Rwanda à retirer ses forces. Lorsque de la réunion de Luanda, on ne reconnaît même pas l'agression. On parle plutôt d'un dispositif mis à place par le Rwanda pour assurer sa défense et sa sécurité. On s'est complet à promettre de la part de la RDC que l'on va élaborer et présenter un plan pour la neutralisation des FDLR, alors que c'est dans les rangs du M23 RDF qu'elle retrouve même des FDLR qui avaient été rapatriés. J'en ai des preuves. Et curieusement, le gouvernement congolais part signer des choses. Donc, lorsque je vois tout ce tableau, je me dis que ceux qui se réunissent là sont très loin de la souffrance qu'endurent les populations victimes de cette guerre injuste. Et donc, proportionnellement à la menace de détérioration de la sécurité, de la situation sécuritaire, proportionnellement à l'aggravation de la crise humanitaire, les conclusions de ces différents sommets n'apportent aucune solution aux problèmes que vivent les Congolais dans cette partie de notre pays.
Donc, il ne faudrait plus qu'on organise des rencontres, selon vous, parce que vous estimez que ça ne donne... Ça n'apporte aucune solution au problème de la RDC.
Mais, Madame Kelly, qu'on organise une rencontre à l'issue de laquelle le ministre des Affaires étrangères qui conduisait la délégation à la réunion de Luanda signe un communiqué dans lequel il s'engage à présenter un plan de neutralisation
des FDLR. C'était un compte-rendu.
Compte-rendu.
Oui. C'était pas le communiqué final. Hein, il faut signaler cela.
Plan de neutralisation des FDLR. Alors que, comme je le disais tantôt, c'est le Rwanda qui recycle les FDLR pour venir les utiliser contre nous. Je me pose la question de savoir à quoi cela apporte la paix au Nord Kivu. Donc, ces rencontres, nous ne pouvons pas interdire aux ministres, aux uns et aux autres, de se réunir autour de cette crise, mais nous constatons que ces réunions sont loin d'apporter la solution attendue.
Alors, le président Salva Kiir séjourne en RDC. Il doit prendre d'ailleurs son avion ce soir pour rentrer dans son pays. Il est président d'exercice de l'EAC. Il a encouragé la reprise du processus de Nairobi et de Luanda pour finalement décanter cette situation.
Alors, tous ces chefs d'État, comme je le disais, ne mesurent pas l'ampleur de la souffrance du Congolais. Processus de Luanda, c'est depuis le 6 juillet 2022, c'est-à-dire quelques jours après la prise de Bunagana par les agresseurs. De juillet 2022, en ces jours, nous sommes bientôt 2 ans, n'est-ce pas, depuis que le processus de Luanda a été lancé. Le Rwanda n'a fait qu'évoluer dans son agression. Novembre, septembre, octobre 2022, le blocage de la route Goma-Rutshuru avec toutes les conséquences. Janvier 2023, blocage de la route Sake-Kichanga avec toutes ses conséquences. La route Sake-Masisi et dernièrement la route Sake-Minova. Goma assiégé complètement sans denrées alimentaires. Ces chefs d'État n'ont jamais été à mesure de prendre la moindre sanction. Donc, ce sont des bonnes déclarations, mais, comme je le disais tantôt, ce n'est pas de ces chefs-là d'où nous viendra la solution.
Alors, vous revenez trop sous les sanctions. Vous imaginez quelles sanctions, par exemple, pour faire fléchir le Rwanda?
L'expérience de 2013 a montré que l'économie rwandaise n'était pas assez solide pour soutenir une guerre meurtrière comme celle-là. Il a suffi que des partenaires du Rwanda soient convaincus qu'il y avait véritablement agression et qu'ils soient amenés à prendre des sanctions financières contre le Rwanda. Eh bien, nous avons vu le Rwanda changer d'attitude. Aujourd'hui, la situation, d'abord au plan humanitaire, elle est extrêmement grave.
Catastrophique. Hein?
Catastrophique. Oh, je viens de Kanyabayonga. Les déplacés ont du mal à trouver ne serait-ce que de l'eau à boire. Les populations se réveillent à 2h, 3h pour se battre, pour trouver ne serait-ce que 3-5 litres d'eau. Les mamans, les femmes sont contraintes de se laver avec de l'eau extrêmement sale. À Vichumbi, curieusement, ce sont les femmes de ceux qui bloquent la livraison de l'eau aux populations. Donc, une catastrophe humanitaire comme celle-là. Et des sommets des chefs d'État qui ne produisent rien. Par contre, lorsque je considère les menaces que je viens de percevoir, je reviens de Butembo, de Beni, de la zone Rutshuru, et je considère que ces conclusions n'apportent rien, je crains que dans les tout prochains jours, la situation ne s'amplifie. Et lorsque le Rwanda, qui n'est pas condamné, l'agression qui n'est pas reconnue, lorsque l'M23 camouflé sous, le Rwanda camouflé sous le label M23 continue à élargir son champ opérationnel de manière impunie, l'M23 va également élargir ses revendications politiques, ses revendications de tout genre. Ne soyons pas surpris que demain, nous assistions à un scénario identique à celui des années 96-97.
Pour vous, la diplomatie a échoué?
Non, c'est clair. Lutundula devait remettre son tablier. Donc, non seulement Lutundula, toutes les tournées organisées par M. Félix n'ont rien apporté finalement. Et il faut chercher la solution ailleurs. Malheureusement, ailleurs, sur le front militaire par exemple, je suis désolé de constater que, alors que toute la population du Kivu s'est déclaré à la disposition de M. Félix, les uns comme volontaires, les autres comme pisteurs au profit des FARDC, ils n'arrivent même pas à capitaliser cette détermination de la population. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis tenté de conclure que le gouvernement dit de Wario et Félix lui-même n'ont pas assez les épaules solides pour nous conduire à la victoire dans cette guerre.
Bintou Tshabola, vous êtes député national honoraire et cadre de l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces rencontres pour essayer de trouver une solution à la situation sécuritaire qui est en train de se dégrader dans le Nord Kivu?
Merci beaucoup. Je pense que les chefs de l'État, lors de ces différentes sorties, avaient proposé des solutions aux problèmes sécuritaires de l'Est de notre pays. Rappelez-vous que la première solution, parmi les deux solutions, c'était la solution diplomatique et la solution militaire. Si une des solutions peut nous apporter la paix, tant mieux. Mais, bien sûr, tous les Congolais, dans son ensemble, aimeraient que la solution militaire s'impose afin que le Rwanda respecte totalement la République démocratique du Congo, pour que le Rwanda s'interroge 5, raisonne 10 à 15 fois avant de penser de venir dans notre pays d'agresser. Bien sûr, nous ne sommes pas contre une solution diplomatique si cela peut apporter une solution. Vous savez que mais ce que nous avons vu dans cette guerre, c'est que derrière le Rwanda, il y a un problème. Lorsque vous trouvez qu'il y a un poussin qui se trouve dans une marmite, qui a rempli toute une marmite, ça veut dire que en dessous, il y a sa maman est là. C'est ça ce que nous avons trouvé, que ce n'est pas le Rwanda qui agresse seulement la RDC. Et ce qui s'est caché ne se cache plus aujourd'hui. Vous avez derrière le Rwanda, l'Union européenne qui a signé un accord avec le Rwanda pour le traitement des matières premières que le Rwanda ne dispose pas. Cela veut dire que l'Union européenne encourage le Rwanda à venir à la République démocratique du Congo, piller les richesses congolaises, les exporter au sein de l'Union, parmi les membres de l'Union européenne, qu'ils prennent, puisque les gens aiment les minéraux de sang qui coûtent moins cher. En dehors de l'Union européenne, comme une organisation, il y a la Pologne, qui ne s'est plus cachée qu'à signer les conventions avec le Rwanda, mais les conventions militaires, en envoyant même les matériels au Rwanda. Qu'est-ce qui nous dit que parmi les militaires, ceux qui sont en train de combattre aujourd'hui à l'est de notre pays, parmi tout ce que nous avons eu comme information, tout ce que l'armée est en train de voir sur le terrain, qu'il y a des blancs qui sont à côté de Rwandais, de M23, RDF, et aujourd'hui AFC, ces gens-là. Donc vous trouvez que derrière le Rwanda, il n'y a pas que le Rwanda, c'est la RDC est en train de faire face, pas seulement au Rwanda comme pays agresseur, avec son président Kagame qui tient à donner de l'insomnie chaque jour au peuple congolais, qui a tué des millions de Congolais, plus de 10 millions aujourd'hui, c'est presque toute la population rwandaise. Le Rwanda n'a que 10 à 15 millions d'habitants. Alors, donc, mais eux ont tué chez nous plus de 10 millions d'habitants. Il n'y a pas que l'Union européenne et la Pologne. Il y a les multinationales qui sont derrière le Rwanda pour voler les matières premières et tuer les Congolais, les vrais propriétaires de ces matières-là, afin de les exploiter et gratuitement, mais sur le sang des Congolais.
Alors, Tumba Tshabola Bintou, donc pour vous, tout État ou institution qui signerait des accords avec le Rwanda aujourd'hui serait complice.
Non, vous savez, si l'Union européenne avait signé la convention avec le Rwanda pour l'élevage, comme le Rwanda est un peuple pasteur, ou bien il avait signé les accords avec le Rwanda pour promouvoir l'agriculture, l'élevage, on dirait que le Rwanda a ces histoires-là. Mais quand on signe des accords pour les matières et ne dispose pas le Rwanda, que le Rwanda vient voler chez nous et pour vendre à l'Union européenne, Cela veut dire que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Celui qui soutient notre ennemi est notre ennemi. Donc, il n'y a pas moyen, nous ne pouvons pas conclure autrement que cela. Donc, l'Union européenne a montré, à la place du monde, que l'Union européenne soutient les Rwandais pour que les Rwandais continuent à voler et nous faire la guerre, pour voler nos matières premières et vendre aux Rwandais, et vendre à l'Union européenne, à la Pologne, ainsi qu'aux multinationales. Donc, la guerre n'est pas seulement, la RDC ne se bat seulement pas contre les Rwandais, contre la RDC, mais c'est pas aussi contre la Pologne et l'Union européenne et tous les multinationales qui sont en train de voler nos matières premières, qui ne veulent pas venir de manière officielle. Rappelez-vous lorsque le chef de l'État est entré en fonction. Il a eu à faire des tournées à travers le monde pour dire à tous ceux-là qui veulent avoir nos matières premières qu'ils viennent, on signe le contrat gagnant-gagnant. Ça permet et à la RDC et à ces pays-là d'avoir ce qu'ils cherchent. Mais ils ne veulent pas, ils veulent passer par des personnes interposées, par des pays, par un pays voisin, un voyou, pour venir piller nos richesses. Voilà, c'est ça le nez de la guerre. J'ai suivi mon collègue, tout ce qu'il a dit là. Donc, mais le nez du problème, c'est ça. Ce n'est pas parce que la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. La guerre a commencé depuis 1994, quand les FDLR, Kagame lui-même est le détonateur des génocides rwandais. Mais pourquoi on ne parle pas des Congolais qu'on continue chaque jour si on avait tué 800 000? Mais les Congolais sont déjà plus de 10 millions. Ça veut dire que c'est les Congo qui a subi les pires génocides de notre siècle.
Alors, puisque vous estimez que le Rwanda est appuyé par certains États ou institutions, donc toutes les rencontres qu'on pourrait organiser pour sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC ne donneraient pas des résultats positifs.
Bon, je ne peux pas conclure qu'il n'y aura pas de résultats positifs, mais l'histoire nous renseigne que nous avons maintes fois négocié. Plusieurs fois, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, donc la RDC n'a pas de problème vis-à-vis du Rwanda. Si c'était des accords, la RDC connaîtrait déjà la paix totale. C'est seulement ceux qui sont en train d'instrumentaliser le Rwanda, ce sont les mêmes qui disent encore qu'on a signé des accords. Il suffit que l'Union européenne retire son aide aujourd'hui, l'aide militaire, l'aide financière, l'aide matérielle au Rwanda, le Rwanda ne sera pas capable de venir faire la guerre à la RDC. Donc, signer les accords, il faut que ça soit de manière sincère. Mais pour que ça soit de manière sincère, il faut que les partenaires du Rwanda, qui sont en train de le soutenir pour faire la guerre à la RDC, cessent. S'ils ont besoin de matières premières, le président est très ouvert. Il leur a dit plusieurs fois, il a fait autant de voix pour leur dire de venir quand vous avez besoin de ça. Mais pourquoi passer par le Rwanda au lieu de passer directement par la RDC?
Merci.
Donc, s'ils ne sont pas sincères, que les accords, comme nous avons besoin de la paix, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan militaire, la paix, c'est ce que les Congolais cherchent. Mais s'ils ne veulent pas abandonner, moi je demanderai à notre pays de renforcer l'armée, de continuer à faire la guerre au Rwanda, jusqu'à ce que tous ceux-là qui sont derrière eux, afin que nous puissions mettre fin définitivement à ça. Même s'il faut se doter d'une arme nucléaire, la RDC doit se faire. Mais pourquoi on doit nous interdire d'avoir une arme nucléaire pendant que les matières premières qu'on a utilisées pour faire l'arme nucléaire viennent de la RDC?
Merci.
Pourquoi nous ne pouvons pas avoir ça aujourd'hui? Quand il y a un problème, on utilise aussi l'arme nucléaire pour mettre fin à tout ça.
On vous a bien compris, Toumba Tchabola Bintou. Rigen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches du groupe d'études sur le Congo. J'ai concible votre avis, votre point de vue sur toutes ces réunions autour de la situation sécuritaire, toutes ces réunions sur la situation sécuritaire de la RDC, toutes ces réunions, ces rencontres autour du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait des années qu'on organise des rencontres, des réunions, mais la situation ne semble pas s'améliorer.
Voilà, ce que je pense, c'est que le Congo est dans son droit de décider de discuter avec qui il veut. et surtout de discuter avec un État souverain en tant que lui. Donc, je comprends et je, d'ailleurs, je trouve que c'est d'ailleurs une démarche souhaitable que le Congo continue à parler avec le Rwanda, malgré les circonstances, malgré cette agression rwandaise sur le territoire congolais. Mais ce qui est maintenant très important et peut-être même là où il y a beaucoup de choses à redire, c'est de cette discussion-là, est-ce que le Congo gagne par cette discussion-là? Comme l'honorable Kasekwa l'a dit, il est clair que le Congo trouve peu de résultats dans différentes discussions. Ce sont des discussions avec des États de la région ou avec des groupes hostiles, comme ça a été le cas pendant les différents dialogues depuis jusqu'à aujourd'hui. Donc le problème, ce n'est pas le dialogue en soi, c'est plutôt ce qu'on discute dans ce dialogue-là. Si on va dialoguer pour remettre en cause la souveraineté de l'État, c'est peut-être problématique. Si on va dialoguer pour que l'on puisse mettre en cause l'état de droit et que l'on puisse avoir un traitement différencié en faveur d'un groupe d'individus, c'est problématique. Ça viole l'égalité de tout le monde devant la loi et devant même le partage des ressources du pays. Si on va aller dialoguer ou discuter pour qu'on ne puisse pas parler de justice et que l'on le remette en cause tout processus de justice en pays, alors là, on fait fausse route, parce que c'est quelque chose qui a été essayé dans ce pays. On a choisi la paix au détriment de la justice, et à la fin de compte, on n'a pas trouvé ni la justice ni la paix. Donc voilà, c'est beaucoup plus ce qui est discuté et les résultats qu'on obtient après ces négociations que les principes même du dialogue.
Alors, les internautes hein, sont nombreux, les auditeurs aussi hein, sont nombreux à nous écrire. Il y a par exemple Pierrot de Dieu Mumba Tamba qui nous écrit depuis Kolwezi, qui dit ceci: « Je ne vois aucun partenaire sincère parmi tous ces pays, c'est-à-dire le Congo est un agneau parmi les loups et ne doit que se prendre en charge et arrêter de perdre les temps avec des rencontres stériles. »
Ben, déjà, c'est pas incompatible. Le dialoguer, c'est le ministère des Affaires étrangères qui est en train de, qui est à Luanda et qui a été dans ces discussions-là. Il n'a pas empêché les FARDC de continuer à faire ce qui est les responsabilités, protéger l'intégrité territoriale. Il n'a pas empêché la police nationale congolaise d'assurer la protection des civils et de leurs biens. Donc, ce n'est pas incompatible de faire la diplomatie, de faire la politique, tout en continuant à exercer les attributs régaliens d'une nation. Donc, c'est pour ça que le Congo est dans son droit de continuer à user de son pouvoir, à protéger son intégrité et à combattre toute menace autant intérieur qu'extérieur, voilà, comme tout État le ferait. Maintenant, les questions qui sont à se poser, c'est de dire, est-ce que le Congo et le gouvernement congolais en premier assurent bien ces responsabilités-là? Et en plus, pour tout le monde, quand on parle protection des civils, protéger tous les civils, et quand on parle de l'intégrité territoriale, en fait, c'est l'État se protège pas contre les faibles, mais contre toute personne qui veut mettre en cause en fait la souveraineté, l'intégrité de la nation. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y a une compatibilité entre la démarche diplomatique et l'utilisation de la force légitime et légale qu'a le Congo en tant qu'État souverain.
Alors, je l'ai dit dans mon introduction, une délégation congolaise avec à la tête le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, était à Luanda pour une réunion avec le facilitateur. De l'autre côté, c'est Vincent Biruta du Rwanda, ministre des Affaires étrangères de la coopération, et qui est venu aussi avec sa délégation pour préparer la rencontre entre les présidents de la RDC et du Rwanda, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. La question que beaucoup de gens se posent est celle de savoir si ce tête-à-tête Félix Tshisekedi et Paul Kagame pourrait apporter une solution au problème sécuritaire dans la partie est de la RDC. Vous allez répondre à cette question, Rigel Miviri, mais avant cela, on va prendre d'abord cet auditeur qui nous appelle de Beni, au Nord Kivu, qui voudrait aussi intervenir sur cette question.
Je suis Doube Mwenemboka, j'appelle à partir de Beni, au Nord Kivu. À mon avis, toute rencontre organisée pour la paix, pendant que la RDC est en position de faiblesse militairement, n'aboutira à rien. Même un tête-à-tête entre les deux présidents n'aura aucun impact sur le terrain. Le mieux est de réorganiser l'armée pour défendre le pays.
Rigel Miviri.
Bien sûr, en théorie des sciences politiques, il est clair que parfois c'est très compliqué de bien négocier si on n'a pas le rapport de force militaire. C'est vrai pour tous les autres les États, c'est vrai aussi pour la RDC. Donc, c'est ça, comme encore je l'ai dit ici, les démarches ne sont pas incompatibles, mais je pense que c'est nécessaire et d'ailleurs souhaitable que le chef de l'État se rencontre. Tout dépendra de la capacité de la RDC à savoir défendre ses intérêts autour de la table et peut-être aussi sur les champs de bataille. Donc, ça sera ça, je pense, la grande question, mais comme je l'ai dit au départ, ces deux démarches ne sont pas incompatibles, même si on voit déjà, si on en croit le compte rendu que nous tous on a lu ici, ça semble être en défaveur de la RDC en tout cas. Vous imaginez que la RDC n'a même pas su faire reconnaître au Rwanda publiquement une évidence qui est celle que le Rwanda a des troupes sur le territoire congolais. Donc, juste cet exemple-là montre que ce processus diplomatique n'est jusque-là pas en faveur de la RDC.
Joseph Muganza, depuis Lubumbashi, madame, toutes ces rencontres n'apportent rien. D'ailleurs, c'est une perte de temps. Le gouvernement congolais devrait opter pour la guerre afin de résoudre et mettre fin à cette agression rwandaise. À mon avis, le président rwandais sait très bien ce qu'elle fait. La SADC ne doit pas seulement dénoncer, par contre, elle doit sanctionner, vu que le Rwanda est soutenu par l'Union européenne. C'est donc après Béni, on va se rendre, on va rentrer à Kinshasa pour écouter cet autre auditeur.
Alphonse Tchefou, depuis la ville province de Kinshasa. Je pense que les rencontres entre la délégation congolaise et rwandaise en Angola pour préparer le tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame est pas mauvais. Car tout conflit finit toujours par le dialogue, mais ne doit rien changer sur le terrain, car Paul Kagame est de mauvaise foi et ne respecte pas les engagements qu'il signe. Au contraire, il profite pendant ce temps pour prendre le village. Sa dernière sortie médiatique sur RFI illustre son ambition de rester au Congo, en pillant les minéraux. C'est pourquoi il multiplie les stratégies diplomatiques pour empêcher la force de la SADC à ne pas combattre aux côtés des FARDC avec sa rhétorique d'Ouest de l'air. Cependant, la partie congolaise doit être très prudente dans les deux processus de Luanda et de Nairobi pour ne pas tomber dans les dilatoires de Rwanda et se concentrer surtout sur le plan militaire, car c'est l'unique langage que comprend Paul Kagame. Merci.
Jean-Baptiste.
Oui, tous les intervenants sont sceptiques quant aux résultats de toutes ces rencontres et privilégient l'approche, je m'excuse, l'approche militaire. Et ils ont raison. De mon retour du terrain, je suis préoccupé de constater que au stade actuel, avec la présence du Rwanda M23 à Rwindi et à Vichumbi, c'est-à-dire à la porte du territoire de Lubero, Butembo, Beni, la crise sécuritaire risque de s'amplifier. J'ai perçu deux principales, ou si pas trois principales menaces. La première, c'est que dans l'éventualité d'un nouveau repli stratégique des FARDC, la population n'est pas prête à comprendre le bien fondé et l'ennemi risque de bénéficier d'une situation de mésentente, mécontentement de la population contre sa propre armée. Et donc, à lieu et place de la multiplication des réunions ça et là, un effort particulier doit être focalisé sur la réorganisation de notre armée. La deuxième menace que j'ai perçue sur le terrain, c'est que si on ne déploie pas tous les efforts pour empêcher toute progression du M23 sur la zone Lubero-Butembo-Beni, eh bien, il y aura inévitablement une forte résistance des Congolais et à représailles, l'M23 risque à nouveau de perpétrer des massacres similaires au massacre de Kishishe et à tous les massacres répertorié dans les rapports mapping tels que le massacre de Kavignong et de Butembo. Et donc, qu'est-ce que ces réunions de Lusaka, de Luanda apportent pour répondre à toutes ces menaces-là et que des populations n'appellent pas les pots cassés? Et donc, comme disent tous ces auditeurs, la priorité doit consister à apporter des réponses susceptibles d'assurer la montée en puissance des FARDC. Malheureusement, ces réponses tardent à venir. C'est depuis longtemps que nous avons crié pour que l'on assainisse la chaîne de commandement des FARDC, que nous avons réclamé l'amélioration des conditions de vie, des conditions de travail des militaires, et Kinshasa n'apporte aucunement de réponse à tout ça. Nous avons demandé, n'est-ce pas, que toutes ces populations déplacées bénéficient d'une assistance conséquente pour ne pas être tenté de regagner dans les zones sous occupation. Kinshasa, comme l'avait dit quelqu'un, c'est à 2000 km de la souffrance de ses compatriotes et on s'est complet à voyager et à l'issue des rencontres au signe des comptes rendus qui sont à déphasage total avec la réalité, c'est révoltant.
Alors, il y a un auditeur qui vous pose à vous, Jean-Baptiste Mdoka, c'est quoi la question de savoir, il dit, vous revenez du Nord Kivu, mais quel rôle jouent toutes ces forces étrangères présentes au Nord Kivu?
Alors, le paradoxe, c'est d'attendre que les forces étrangères se battent en premier à lieu et place des forces congolaises. J'étais à Sake. Et j'ai attendu certains qui disaient que les Burundais se plaignaient que les Congolais attendaient voir les Burundais se battre à première ligne de front. Les Kenyans disaient la même chose. Les troupes de la MONUSCO nous disent également la même chose. Non, pour moi, l'armée congolaise est capable. J'ai reçu des témoignages que les commandos qui étaient à Kirima se sont battus vaillamment, de même que ceux qui étaient à Nyanzale. Mais que il y a cacophonie dans la chaîne de commandement. J'ai vu à Kirumba, Madame Kelly, un commandant qui fait les navettes entre Kanyabayonga et Kirumba à bord de sa jeep, entouré de plusieurs femmes à bord de sa jeep, un matelas au-dessus de sa jeep. On dirait que pour lui, c'est une rencontre de jouissance. Il n'est pas à guerre. Et la population voit ça, et les militaires voient ça. Mais également, lorsque l'on observe comment le gouvernement ne s'emploie pas pour
améliorer les conditions de nos militaires qui sont prêts à se battre et qui se battent. Lorsqu'on voit comment, d'un côté, on dit on mobilise toute la population à soutenir l'armée. De l'autre, cette mobilisation-là n'est pas suivie de mesures concrètes. Eh bien, on trouve que le gouvernement n'accorde pas la priorité des priorités à nos forces qui sont capables de mettre fin à cette guerre. Les M23, ce n'est pas un mystère. On en a donné la preuve à septembre dernier. Les FARDC, avec les compatriotes Ouazaleno, ont battu les M23 de Kilolilou jusqu'à Kichanga. À moins de 12 jours, c'était une preuve. Et donc, pour moi, les troupes étrangères, je n'attends pas grand-chose d'elles, mais qu'on accorde la priorité des priorités aux forces congolaises et à la population congolaise qui est déterminée. J'ai été à Sake, la population de Sake dit, Sake c'est comme le Cuba. Même si le Rwanda venait avec toute sa superpuissance, la population dit, elle ne va pas quitter Sake. La population de Kirumba, d'où je viens, dit la même chose, qu'elle ne va pas abandonner son territoire. Mais lorsque vous avez une population surdéterminée comme celle-là, vous avez une population qui s'offre entre vos mains pour combattre sans demander de salaire, qui demande simplement de l'encadrement, et vous êtes incapable de conduire et l'armée et la population à la victoire.
Merci.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais une équipe
Merci
qui ne gagne pas.
On va vous redonner
depuis Bounagana
la parole pour la conclusion.
Il faut la mettre de côté.
Merci beaucoup. On va se rendre à Bukavu pour écouter cet autre auditeur qui nous appelle.
Accent Kishengamou, Olivier, depuis Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Les rencontres et les discussions sur la situation sécuritaire en RDC sont des initiatives positives pour tenter de résoudre les problèmes et promouvoir la paix dans la région. Le dialogue entre les dirigeants des pays concernés peut jouer effectivement un rôle important dans la recherche des solutions durables. En clair, il faut préciser qu'un tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame pourrait certainement contribuer à faciliter la communication directe et à trouver des moyens de promouvoir la paix dans la partie est de la RDC. Cependant, il est tout de même important de noter que la solution des problèmes de sécurité est un processus complexe et multifactoriel qui nécessite non seulement une approche holistique, mais aussi une participation de toutes les parties concernées au conflit. Il est tout de même encourageant de voir que les pays de la région s'engagent à trouver des solutions pour la situation sécuritaire de notre pays. Il est également essentiel que les différentes parties travaillent ensemble pour garantir la stabilité et la sécurité dans la région. Les rencontres sont un pas dans la bonne direction. Je cite, un mauvais voisin est une calamité, un bon voisin est un trésor.
Touma Tshabola, qu'est-ce que vous pensez de cet avis, hein, de l'avis de Aksanti Olivier qui nous a appelé depuis Bukavu?
Bon, merci beaucoup. Bon, j'ai suivi notre compatriote Aksanti Singamou qui dit que le dialogue peut jouer un rôle important. Mais c'est vrai, nous n'avons pas refusé qu'il y ait le dialogue entre le Rwanda et la RDC, qui est une solution diplomatique. Mais si cela, on le fait de manière sincère, ça peut nous amener tous à vivre dans un environnement où il y a la paix entre le Rwanda et la RDC. Mais si le Rwanda le fait comme d'habitude, en voulant gagner un peu de temps pour revenir plus tard. Rappelez-vous que s'il faut dire un seul mot sur les FDLR sont arrivés en République du Congo en 1994. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. Les FDLR étaient au nombre de combien? Les FDLR avaient quel âge? 30 ans plus tard, sont-ils toujours là? Les Rwandais a toujours utilisé les mêmes alibis pour entrer au Congo. Le Rwanda est au Congo depuis 1996 jusqu'en 2018. De manière officielle et non officielle. Il y a eu des accords, il y a eu de coopération militaire, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Le Rwanda, un enfant rwandais a eu à diriger l'armée congolaise en 1997 avec à l'entrée de la belle. Tout ça, les Rwandais n'ont toujours pas eu le temps de terminer avec l'FDRR qui était arrivé au Congo. Plus de 30 ans après, les Rwandais continuent à utiliser les mêmes alibis pour venir agresser la RDC. Je pense qu'il y a des moments où les recettes, les mêmes recettes ne peuvent pas produire les mêmes arguments que les Rwandais aient à donner depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, le monde ne doit pas continuer à suivre encore les mêmes bêtises que le Rwanda est en train de dire, que la RDC est en train de faire ça avec les FDLR. Ainsi, prenons par exemple que les derniers FDLR militaires qui étaient arrivés au Congo avaient, en 1994, avaient 30 ans. C'est qu'aujourd'hui, il doit avoir 64 ans. Est-il toujours en mesure de prendre l'arme et d'aller combattre le Rwanda? Point d'interrogation. Donc, nous ne sommes pas opposés à une solution militaire. Je voudrais au moins répondre aussi à mon collègue qui avait dit que le président Tshisekedi ne peut pas nous amener à une victoire contre le Rwanda. Je vous dis que la guerre d'aujourd'hui n'est pas le problème du président seul. Ça nous concerne tous. Vous venez d'évoquer par plusieurs faits où vous êtes partis, vous avez trouvé que la population elle-même veut qu'il y ait une solution militaire. Et la solution, même la population elle-même veut qu'on puisse mettre fin à cette guerre. Ça veut dire que le président doit tout faire pour qu'on arrive à une solution définitive à ce problème. La volonté, il y en a. S'il faut comparer le régime passé avec le régime du président Félix Antoine Tshilombo, notre régime, donc c'est la volonté qui n'existait pas dans le temps pour mettre fin à l'agression rwandaise. La volonté existe. Personne ne peut dire aujourd'hui que le président Tshisekedi n'a pas la volonté de mettre fin à la guerre de l'Est du pays. Donc, ça c'est vraiment, soit vous êtes animé d'une mauvaise foi.
Merci. Et
le président de la République a mis en place tous les moyens. Il a donné plus de moyens que tous les autres régimes pour qu'on mette fin à la guerre de l'Est. Les instruments juridiques, les matériels militaires, tout ce qu'il faut pour que la guerre se termine. Donc le président a tout fait pour qu'on arrive à une solution. Malédiction, bien sûr, c'est quelque chose qu'il a hérité, qui date de plusieurs années. La solution ne peut pas venir en un jour, mais la volonté existe et nous devons tous nous unir afin de mettre fin à cette aventure rwandaise.
Merci Toumba Tshabola, merci chers internautes. Vous êtes très 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 nombreux à nous envoyer vos points de vue, vos questions. Malheureusement, le temps fait défaut. Merci Bénédicte Pello depuis Bujumbura, David Wedi depuis Kinshasa. Merci à Socrate Akili depuis Bukavu, les bons Massakara depuis Bukavu aussi. Merci. Merci à Jiraz Kabulo qui nous suit en ce moment. Moussa Kabioni, Kaikai depuis Kalanga au Kasaï Central. Salomon Gisagi, merci beaucoup pour vos réactions. Elia Morebois, vous êtes très nombreux, comme je l'ai dit. Joseph Waputu, Maître Rigen Miviri, nous sommes à la fin de notre émission. Une rencontre, Félix Tshisekedi, Paul Kagame, très attendue. Certains Congolais restent, doutent encore, hein, restent quand même assez sceptiques hein, quant à cette rencontre. Vous y croyez et vous pensez que la solution sortirait de là. Ça sera votre conclusion.
Je ne dois pas dire que je crois déjà. Je pense que c'est nécessaire, mais je ne présume pas les résultats de discussions-là. Mais peut-être, j'espère tout simplement que le Congo va y aller, sachant ce qu'il cherche, et va faire tout pour avoir des résultats qui sont à la hauteur du défi et du problème, et surtout à la hauteur de cette crise qui devient de plus en plus difficile, surtout du point de vue humanitaire, et voilà.
Honorable Jean-Baptiste Mandoka, c'est quoi votre conclusion?
Ce sera une rencontre de capitulation, comme la rencontre de novembre 2008 entre Kabila Kagame, d'où est sortie la fameuse opération Mojawetu, où la rencontre du 21 novembre 2012 de Kampala, ça ne va rien donner. Plutôt, premièrement, il faut restaurer la confiance entre l'armée et la population, notamment en assainissant la chaîne de commandement et en améliorant les conditions de travail de nos FRTC. Deux, il faut empêcher une jonction entre UPDF en opération conjointe avec les FRTC à Beni Mambasa et UPDF avec l'M23 qui sont déjà à Vichumbi, surtout avec la nomination des nouveaux chefs d'état-major pro-M23 en Ouganda. Tertio, Félix doit tout faire pour mettre de côté les autorités de l'état de siège qui sont en train de dresser la population contre l'état à Kasindi, à Butembo, à Goma, à spolier les parcelles, à vendre anarchiquement les parcelles comme à Kasindi, au point que les gens se révoltent contre l'État. On dirait que ces autorités de l'État de siège sont en train de préparer les lits au M23 en énervant excessivement la population, comme je l'ai vu à Butembo, le gouverneur qui impose n'importe quoi, enregistrement de vitres teintées $110. Félix doit tout faire pour se réconcilier la population qui est la première arme contre l'agression. Dans le cas contraire, eh bien, nous serons en train de faire le lit de l'ennemi.
Toumba Tchabola, conclusion, votre mot de la fin.
Merci beaucoup. Bon, moi je demande à la population de tenir bon. La RDC finira par vaincre la guerre contre le Rwanda et tous ses alliés, Union européenne, Pologne et les autres, puisque c'est notre pays, nous n'avons pas un autre, nous ne pouvons que continuer à soutenir notre gouvernement et les chefs de l'État, qui a vraiment la volonté de mettre fin à cette histoire qui n'a que trop duré. Donc, c'est la conclusion de mon collègue sur les histoires de contre l'état de siège. Bon, c'est son point de vue depuis très longtemps. S'il y a des erreurs que les responsables les gouverneurs sont en train de commettre. Donc, je pense qu'il a le droit de chercher à ce que cela soit réparé. Mais ce que nous voulons dans notre pays, c'est que la paix revienne totalement. Nous n'avons plus besoin d'avoir encore la guerre dans ce pays.
Merci,
et la RDC doit se doter d'une armée. Doit avoir, pour moi, la RDC doit renforcer son armée et avoir l'arme nucléaire. Comme ça, les Rwandais auront peur totalement de nous attaquer.
Merci, Toumba Tchabola. Merci, Junior Kiyumbi depuis Kolwezi, Alimasi John Ongombe depuis le Maniema, Yes Pamphile Kirima, Ngoyi Olive depuis Lubumbashi. Merci beaucoup. Vous avez été très nombreux à suivre cette émission, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Dona Madimba, Clément Chumanga, Hervé Voka, Hippolyte Kiapanga, présentation et coordination Kelly Nkouté, et l'équipe et la monde a supervisé ce programme. Bonne suite de programme, voilà, sur la fréquence de la paix.